débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. La France s'engage pour le climat. C'est le titre d'un événement que François Hollande a présidé ce matin. Dernière ligne droite, dit-on, avant la conférence Paris-Climat, la COP21 qui se déroulera en décembre prochain. Cette COP21, cruciale de par ses enjeux, requiert une organisation très importante. Les représentants de 195 nations seront présents, ainsi que des acteurs de la société civile. On estime à 40 000 personnes le nombre de ceux qui viendront participer à cette conférence. Alors, sécurité, transport, approvisionnement, financement, la logistique à mettre en place est considérable. Paris est-elle prête à accueillir l'événement? Eh bien, on va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Stéphane Troussel est président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir à vous, Stéphane Troussel.
Bonsoir.
Et puis, Pierre-Henri Guignard est secrétaire général de l'organisation de cette COP21.
Bonsoir.
Bonsoir. Comment on va pouvoir donner à nos auditeurs la mesure de l'organisation qui est en train de se mettre en place? Globalement, on va dire, et puis on abordera les détails par la suite. Pierre-Henri Guignard.
Alors d'abord, je suis sûr que Stéphane Troussel a tressailli un instant en entendant Paris seulement, parce que bien évidemment, c'est la France accueille cette conférence des Nations Unies dans la région parisienne, à Paris, la capitale, et plus particulièrement au Bourget, bien évidemment. Et c'est donc un partenariat entre l'État, les collectivités territoriales impliquées, donc Île-de-France, bien évidemment, le département de la Seine-Saint-Denis et la ville du Bourget, qui nous permettra justement d'accueillir dans cette grande région le nombre de personnes que vous avez indiquées. Alors 40 000, c'est pas tous des délégués ou des représentants des États. Alors d'ailleurs, il y a 196 parties à la convention.
D'accord.
Il y a 195 États plus l'Union européenne, donc 196 parties.
Okay.
Ces pays sont représentés par 10 000 délégués qui représentent les États souverains, qui vont venir avec leur chef d'État, leur ministre de l'écologie ou des affaires étrangères pour participer aux négociations. S'ajoute à cela un nombre important d'observateurs qui représentent les ONG, qui représentent les entreprises, qui représentent 9 piliers de la société civile. Et dans mécaniquement, il y a autour de l'ensemble de ces participants des gens qui viennent soutenir, enfin nous pensons qu'ils viennent soutenir la négociation, c'est-à-dire ce sont des représentants d'organisations qui ne sont pas accrédités mais qui veulent peser d'une façon ou d'une autre sur la négociation et qui viennent. Et on estime à peu près leur participation aussi à 20 000. Donc au total c'est effectivement 40 000 journalistes, je n'oublie pas les 40 000
personnes
dont,
des journalistes,
dont 3 000 journalistes, oui, que nous attendons. Et donc il faut les transporter, il faut les héberger. Et il faut les restaurer et leur permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles.
Bon, alors Stéphane Troussel, Pierre-Henri Guignard l'a noté, on parle d'une conférence à Paris, mais c'est en fait le département que vous dirigez, la Seine-Saint-Denis, qui est l'hôte de cette manifestation importante.
Oui, et d'ailleurs, Pierre-Henri Guignard le disait, on dit la conférence climat de Paris 2015, mais l'essentiel des débats, des négociations, de la mobilisation, y compris des ONG, des associations, des citoyens qui viendront tenter parfois de s'exprimer, l'essentiel se déroulera sur le site du parc des expositions du Bourget et à proximité de ce qu'on appelle l'aire des vents. Pour ceux qui identifient, ce week-end va se dérouler la fête de l'humanité. Eh bien, c'est à peu près sur le même espace. Et donc, j'ai d'abord envie de vous dire, bon, c'est un chiffre important, hein, 45 000 personnes pendant 15 jours. Mais en Seine-Saint-Denis, on sait faire. Parce que d'abord, sur ce site s'y déroule le salon de l'air et de l'espace. Alors, sur des périodes plus concentré, la fête de l'humanité, d'autres rendez-vous à proximité, pas très loin, en Seine-Saint-Denis, dans quelques mois, on aura l'Euro 2016 autour du Stade de France. Donc des mouvements comme ça de population assez élevée en Seine-Saint-Denis. Bon, on a quelques habitudes dans des conditions particulières
de sécurité, notamment
de sécurité, parce qu'il y a il y aura certains jours, pas tous, des représentants de haut niveau, et donc depuis plusieurs mois maintenant, avec le secrétariat général de la COP21, avec les services de la préfecture, eh bien on discute, on travaille, on élabore des schémas de circulation, des renforcements des dispositifs de sécurité. Le conseil départemental a des responsabilités sur de la voirie, et donc on met à disposition un certain nombre de nos outils. Et puis, le secrétaire général a travaillé aussi sur le renforcement de l'offre de transport. Il y a le RER B à proximité au Bourget. Il y a une ligne de métro, la ligne 7, avec la possibilité de transporter les délégations avec des navettes, bus, depuis les terminus de métro. Et donc, avec l'idée de fluidifier la circulation, soit par la route, soit par un renfort de l'offre de transport.
On est d'accord, et vous l'abordez tout de suite, vous avez raison, c'est le casse-tête, un casse-tête en tout cas très particulier. Certains d'ailleurs se sont inquiétés à l'occasion des mois précédents, des conditions du trafic lors de cette conférence. Comment ça va se passer concrètement? Comment la fluidité va pouvoir être de mise à l'occasion de cet événement?
Alors justement, Pierre-Henri Guignard. On a mentionné l'utilisation par les délégués ou par les participants du RER ou du métro. Ce n'était pas au départ une évidence. Une grande conférence internationale, c'est souvent des limousines qui se succèdent.
Ce sera différent cette fois-ci ?
Bien sûr, ce sera différent et c'est un choix des autorités françaises qui a été assumé d'ailleurs avec l'ensemble des collectivités concernées. Nous avons travaillé avec le département de la Seine-Saint-Denis, avec la ville de Paris, avec le STIF, la RATP, la SNCF qui sont des partenaires importants pour effectivement mettre en place un système de transport des délégués grâce au transport public. C'est un choix du gouvernement français. C'est d'abord un choix pour limiter l'empreinte carbone de la conférence.
Mais que tout le monde va accepter de bonne grâce?
Nous n'obligeons pas. Mais l'État finance la mise à disposition de chaque délégué accrédité d'un pass Navigo. C'est un message fort. C'est-à-dire le plus simple pour vous, pour aller de votre hôtel à la conférence, c'est d'emprunter effectivement un système de transport dont, honnêtement, nous pouvons être fiers. Même si, quand on est usager quotidien du RER et du métro, on peut parfois souffrir des désagréments d'un système qui, justement, fonctionne bien et donc qui est très fréquenté. En réalité, il fonctionne bien et beaucoup de villes nous les envient. Donc, nous avons fait ce choix. Alors, il est clair que les chefs d'État et de gouvernement qui doivent être protégés viendront au Bourget dans des véhicules avec la protection des forces de sécurité. C'est évident. Les ministres aussi. Mais il y a 45 000 personnes. Donc sur ces 45 000, les représentants des ONG, les représentants des entreprises, les fonctionnaires comme moi qui allons régulièrement assister aux conférences, eh bien nous prendrons tous le RER parce que c'est plus simple et parce que nous mettons en place des navettes avec la RATP à partir de la station du Bourget pour le RER et Fort d'Aubervilliers, la station du métro, pour aller directement sur le site. La RATP a la gentillesse de mettre à notre disposition un certain nombre de matériel de dernière génération, donc qui pollueront moins, pardon. Et nous avons un partenariat avec Renault-Nissan qui met à notre disposition 200 véhicules électriques pour les heures où le transport public fonctionne moins, pour essayer de raccompagner un certain nombre de délégués vers leurs hôtels.
Donc, alors, vous êtes en train de nous assurer qu'il n'y aura pas de problème de circulation ni à Paris, ni dans la région, qu'il n'y en aura pas autant qu'on pourrait le craindre, en tout cas. Alors, je voudrais m'adresser aux politiques parce que cette conférence se tient en même temps qu'une élection régionale en France et certains s'inquiétaient justement de penser que les Parisiens pourraient pénaliser certains candidats parce qu'ils étaient justement gênés par ces problèmes de circulation. C'est pas une crainte.
Alors certains, allez, dites-le. C'est par exemple mon prédécesseur, la présidence de la Seine-Saint-Denis. Mais je pense que c'est de la responsabilité, c'est de notre responsabilité collective et il a eu la raison comme d'autres, effectivement, d'attirer l'attention pour veiller à ce que on détermine les meilleures conditions possibles de circulation, de sécurité, de renforcement de l'offre de transport, pour y compris inciter un maximum d'utilisateurs à utiliser les transports en commun que nous aurons renforcés pendant cette période. Vous savez, si autour du Stade de France, les jours de match, ça fonctionne aussi bien, c'est aussi parce que depuis l'ouverture du Stade de France à Saint-Denis, on a a tout fait collectivement pour que un maximum des 80 000 spectateurs utilisent le RERB, le RERD et les stations à proximité du stade. Donc c'est aussi un message. Je veux dire, la sortie de Claude Barthelone, elle est utile, y compris pour essayer justement d'inciter les uns et les autres à avoir d'autres comportements pendant cette période, parce que il y aurait quelque chose, y compris d'un peu paradoxal, que effectivement la France qui veut porter un engagement très fort pendant cette période, eh bien ne fasse pas ce choix d'encouragement d'utilisation des transports collectifs. Mais par ailleurs, il y a tout un tas d'autres dispositions. Nous, on a un système, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais de fluidification de la circulation par la gestion, la régulation des feux tricolores sur une grande route nationale où on les fait fonctionner différemment en fonction du trafic. Et donc, l'ensemble de ces mesures doivent permettre que les choses se passent bien. Alors, bien sûr, il y aura des moments difficiles, peut-être, comme il en existe lorsqu'il y a de multiples chefs d'État. Il y a quelques rendez-vous qui, durant cette période, d'ailleurs pas forcément au Bourget, mais peut-être dans Paris, devront être appréhendés de manière encore plus importante avec la mobilisation des forces de police aussi. Bon, allez,
pas ou peu d'embouteillages, vous nous le promettez, et on s'en réjouit.
Et nous y travaillons ensemble, en plus.
Bon, la sécurité, préoccupation majeure également, on imagine.
Oh ben, évidemment, d'abord, nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité d'un événement majeur, hein, avec une exposition médiatique considérable, dans un contexte qui est qui est difficile. Cette année a commencé avec les événements tragiques de Charlie. Il y a eu récemment dans le Thalys cette alerte gravissime. Donc, il est clair que nous avons à l'esprit le risque qui pèse autour de la conférence. Alors, il y a une mobilisation totale. Je précise que au sein de l'équipe que j'anime, il y a une forte représentation du ministère de l'Intérieur, que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, préside très régulièrement un comité de pilotage pour mettre la direction générale de la police nationale, la préfecture de police, enfin l'ensemble des services qui dépendent de son ministère en accord sur les mesures à prendre. Et en même temps, il faut assurer la sécurité sur le reste du territoire national. C'est donc une préoccupation que nous allons partager avec les Nations Unies. Je rappelle quand même que c'est une conférence des Nations Unies que nous organisons. On a parfois tendance à l'oublier. C'est pas simplement un sommet où la France invite comme elle le souhaite. Nous avons négocié pendant plus d'un an un accord de siège qui lie la République française aux Nations Unies et qui est d'une certaine façon une sorte de cahier des charges. Donc les Nations Unies nous ont indiqué ce dont elles avaient besoin au Bourget, ce que nous sommes en train de mettre en place. Et dans le cadre de cet accord de siège, le gouvernement français a accordé l'inviolabilité aux Nations Unies, et donc la sécurité à l'intérieur de la conférence sera assurée par les gardes bleus des Nations Unies et à l'extérieur par les forces françaises, et c'est un travail entre les uns et les autres qui permettra d'assurer la sécurité de l'ensemble.
Alors, on ne peut pas rentrer trop dans les détails, et puis en plus j'ai envie de demander à Stéphane Troussel, président donc de ce conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui veut faire participer les jeunes à la dynamique qui va se créer à cette occasion. Comment et dans quel cadre?
D'abord, je pense que faire le choix, finalement, de la COP 21 en Seine-Saint-Denis, ça doit aussi être un message porteur de sens. C'est pas seulement le fait du hasard et de la disponibilité des locaux. La Seine-Saint-Denis, c'est le territoire le plus jeune de France métropolitaine. C'est celui aussi où, finalement, il y a presque autant de nationalités que de nations qui seront représentées pendant cette conférence. C'est aussi territoire où il y a un certain nombre d'inégalités très fortes. Donc, finalement, ça doit être l'occasion d'envoyer un message. Donc oui, moi, j'ai souhaité que ça ne soit pas seulement une somme de contraintes ou de difficultés pour les habitants, mais ça soit une opportunité d'emploi et de formation. Il y a des jeunes ce matin à l'Élysée, une jeune qui est en bac pro, venait nous expliquer qu'elle viendra pendant ces 15 jours faire sa période de formation professionnelle. C'est une expérience extraordinaire. Il y aura 400 étudiants que nous mobilisons à l'inter, qui vont orienter, guider les délégués. Il y aura surtout des entreprises qui vont recruter pendant cette période plusieurs centaines d'emplois, peut-être même quelques milliers, qui vont aider à restaurer, héberger, nettoyer, maintenir l'espace. Donc, faire en sorte qu'il y ait quelques retombées économiques et sociales pendant cette période. Deuxième type de retombées pour la société civile. Moi, j'ai la conviction que les inégalités environnementales, elles recoupent exactement les inégalités sociales, territoriales, économiques. Parce que finalement, quand on est pauvre, bien souvent, on paye sa facture énergétique plus chère. C'est en Seine-Saint-Denis où les transports collectifs ne sont pas encore suffisamment développés et l'usage du véhicule individuel contraint. C'est souvent là où il y a l'habitat le moins isolé. Eh bien, ça doit être l'occasion de mobiliser les consciences. Et donc, on a mobilisé les moyens financiers, 200 000 euros, pour soutenir 50 projets concrets en Seine-Saint-Denis. Donc, oui, j'ai voulu que ça soit une occasion pour mobiliser la Seine-Saint-Denis autour de ces enjeux, et donc il y aura des espaces dans la société civile, on valorisera nos initiatives, on organisera un certain nombre de débats dans le village de la société civile, et même un espace à l'intérieur de la conférence spécifique. Alors, pour la Seine-Saint-Denis,
il y a une préoccupation dont je voulais vous parler, Pierre-Henri Guignard, c'est les habitudes alimentaires de chacun. Comment vous allez faire pour les prendre en compte?
Alors, c'est effectivement avec les transports que nous avons évoqués et l'hébergement aussi de ces 40 000 personnes, c'est l'une de nos grandes préoccupations, avec la volonté d'avoir sur l'organisation de la conférence une sorte de mise en accord entre la forme et le fond. Il est clair que nous ne pouvons pas organiser une conférence sur le climat et avoir autour des conférenciers des générateurs qui crachent de la fumée noire. Mmh. Bon, donc nous devons impérativement organiser d'abord les lieux et les locaux de façon responsable et durable, avec du matériel recyclable ou, encore mieux, réutilisable. Donc ça, c'est un choix. Il y aura en particulier une grande salle plénière qui a été montée, qui va être montée de toutes pièces, en bois à 100% français, qui sera réutilisée ensuite. Alors ensuite, pour vous poser la question de la restauration, c'est une de nos préoccupations, parce que nous sommes très attendus, parce que c'est la France. Oui. Et donc l'ensemble des délégués s'attendent à trouver de la gastronomie française, l'excellence française dans ce domaine. Donc en restauration collective, c'est parfois un petit peu difficile. Donc nous avons signé une charte aux concessionnaires de la restauration sur le site du Bourget. Nous leur avons demandé de s'engager sur la qualité, mais aussi sur une alimentation de saison, une alimentation responsable et locale, et en particulier avec des circuits d'approvisionnement courts, pour que ce soit les fournisseurs du département, qui est aussi dans certains endroits ruraux, et des départements voisins, qui fournissent l'alimentation. Il y aura par ailleurs la prise en compte des sensibilités religieuses et culturelles de l'ensemble des participants, donc nourriture halal, nourriture cachère, nourriture asiatique pour certains d'entre eux, et bien évidemment un travail sur les déchets. Nous recherchons la certification ISO 20121. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est le niveau de certification obtenu par les Jeux Olympiques de Londres. Si nous réussissons, ce sera la première fois que l'État français aura organisé une grande conférence certifiée de cette façon, et nous pensons que, modestement, que par la suite, il sera très difficile d'organiser des grands sommets sans passer par ces étapes.
Ça en fait des soucis à gérer. On est à pratiquement 3 mois de l'événement. Vous dormez bien la nuit, Pierre-Henri Guignard?
Très bien, parce que j'ai une excellente équipe et que je fais parfaitement confiance à cette équipe interministérielle, jeune et moins jeune, et qui est parfaitement mobilisée sur cet objet.
Et vous, Stéphane Troussel?
Oui, parce que je trouve surtout que c'est une formidable chance pour la Seine-Saint-Denis de changer son image, de montrer ce qu'elle est vraiment et d'apporter sa contribution à ce débat sur la transition énergétique qui concerne bien sûr notre pays tout entier, mais en particulier ceux qui ont le plus à souffrir, ici comme partout dans le monde, de ces dérèglements climatiques.
Mmh. On fera le bilan carbone qui vous semble très important de l'événement à la fin de l'année.
Que nous compenserons.
Oui. Et au-delà de l'organisation, bien sûr, il y a le résultat de la conférence et l'accord qui va pouvoir être conclu. Et on en reparlera, bien évidemment, sur Radio France Internationale. Merci à tous les deux. L'heure nous oblige à interrompre cette conversation. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et Pierre-Henri Guignard, secrétaire général de l'organisation de cette COP21. Florence Ponce a préparé cette émission et Valentin Vanner l'a réalisée. Merci à eux et merci à vous, amis auditeurs, de l'avoir écouté. Demain, on va s'intéresser... Anne Souhaitement qui sera là demain pour parler d'un sujet dont je ne me souviens plus, mais que je vous préciserai plus tard. Bonsoir à tous. Vous restez à l'écoute de RFI, un nouveau journal dans quelques secondes sur la Radio Mondiale.